Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle découverte de la parole de Dieu. Et je vous propose que nous fassions une lecture qui va situer notre méditation dans le livre de Paul 1 Corinthiens, chapitre 17, et nous passerons ensuite dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. Alors voilà ce que nous partageons ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, dit Paul, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, alors que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Un peu plus loin, au chapitre 2, nous avons ceci. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et nous savons que cette prédication repose sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans l'évangile de Jean, nous avons cette parole de Pilate. Il est dit ceci, au chapitre 19, verset 5, « Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate dit à la foule, « Voici l'homme !» Et nous avons une formule latine qui nous dit « eis homo », c'est-à-dire tout simplement « l'homme de douleur, le serviteur et sauveur souffrant ». Alors ceci dit, nous allons maintenant partager en effet ce commentaire. L'évangile prêché dans l'Église primitive était essentiellement Jésus-Christ mort pour les péchés des hommes et Jésus-Christ ressuscité. L'évangile anticonformisme peut être parfois irritant et il peut déranger. Ce n'est pas pour baptiser, nous dit Paul, mais c'est pour annoncer cette parole de salut. Il y a donc deux christianismes parallèles que l'on trouve dans l'évangile prêché selon la pensée de Christ, et puis le christianisme des religions. En tous les cas, ce que nous avons dans notre société, dans notre civilisation, ici dans nos pays latins, qui fait d'un enfant un homme religieux. Ce deuxième christianisme fait d'un enfant un homme religieux, qui fait d'un adulte un homme de foi et un homme d'expérience, un homme spirituel. Il y a donc deux baptêmes et deux christianismes. Et nous avons toujours cette parole qui revient, Paul l'affirme, c'est pour annoncer l'Évangile. L'Évangile précède toujours le baptême. Le principe est le suivant. Allez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous avez bien remarqué, ce n'est pas le contraire. Celui qui croira, croire d'abord, ça présuppose qu'il y ait la foi, et un enfant ne peut pas, à quelques jours, quelques heures de sa naissance, ne peut pas naturellement prendre une telle responsabilité de choisir. Il ne peut pas, c'est ses parents qui le font, et qui le font, qui vont l'introduire dans une religion. Celui qui croira, et en effet, sera sauvé. Croire d'abord, annoncer, c'est-à-dire témoigner. Croire, là, sans l'Évangile, n'est pas croire, c'est adhérer tout simplement à une pensée religieuse, parce que ça suppose, l'évangile de Christ suppose la repentance. Un enfant ne peut pas se repentir, il doit se convertir, c'est-à-dire choisir. Il ne peut pas, en effet, choisir. Et il doit y avoir une nouvelle naissance. Ce n'est pas la naissance naturelle, mais c'est véritablement une naissance spirituelle, vie nouvelle et engagement. Parce que nous est dit, Paul nous le dit, ce n'est pas avec la sagesse du langage. Hein, nous savons que les religions, eh bien, en effet, sont avec là toutes sortes de dogmes, toutes sortes de principes. Alors il n'y a pas de sermon, pas d'exposé intellectuel et spéculatif, parce que tout ça, eh bien, ça n'a pas de sens au regard de ce que Jésus nous annonce. Rien d'émotionnel, de sentimental, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Il faut que ce soit des adultes. Le pédobaptisme, eh bien là, est quelque chose qui a été inventé par les hommes, alors que Paul avait bien compris qu'il était prédicateur d'un message nouveau qui faisait tout simplement d'un homme, eh bien, une nouvelle créature. Attirer l'attention davantage sur le messager à travers eh bien, la fonction des prêtres, la prestance, l'élocution, l'érudition, tout ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Et il y a naturellement, eh bien, en effet, la croix de Christ prêchée, c'est une action du Saint-Esprit qui persuade et convainc. C'est ce que nous dit, en effet, eh bien, là, l'apôtre Jean, qui nous dit au chapitre 16 et au verset 8, que, en effet, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement, et qui convainc, en effet, eh bien, de notre misère spirituelle, de notre indigence spirituelle. La croix de Christ, c'est une action du Saint-Esprit qui persuade. Seule efficacité, c'est la conscience qui est touchée et l'esprit, notre esprit humain, qui est touché. Dans verset 18, il nous est dit que, en effet, eh bien, cet évangile est une folie, cet évangile religieux est une folie pour ceux qui périssent. C'est de la vie à la mort. Après, c'est fini. Puissance de Dieu pour les sauver, c'est-à-dire ça nous fait passer de la mort à la vie nouvelle. Puissance surnaturelle qui procure la vérité, la liberté et la vie comme Dieu eh bien, l'a voulu à travers son plan de salut en donnant Jésus-Christ. Il y a là une supériorité absolue de Dieu et la petitesse des hommes. Puisque l'apôtre le soulignera, il dira « Mais où est le sage ?» c'est-à-dire la pensée grecque. Le scribe, c'est le juif. Le dispensateur, ce sont tous les sophismes et contestataires de ce message de salut qui nous est donné. Maître à penser, c'est-à-dire c'est confronter véritablement et mettre en opposition l'intelligence humaine, et Dieu ne renie pas notre intelligence qu'il nous a donnée, mais c'est avant tout le cœur, l'arbre de la connaissance qui nous a en effet eh bien, conduit eh bien, là, à la perte de notre vie, la perte de notre liberté, notre communion avec Dieu. Alors nous savons que le salut du monde par la connaissance universelle, point d'interrogation, les religions, la philosophie à la conquête du ciel et de tous les mystères, sur les chemins hasardeux et dangereux de l'ésotérisme, donc de l'occultisme, et tout cela est faux. C'est pourquoi Paul dira « Je ne suis pas venu pour baptiser, encore moins finalement des enfants qui ne peuvent pas comprendre, mais je ne suis pas venu pour baptiser même des adultes, parce que la priorité des priorités, c'est véritablement eh bien, que les hommes entendent ce message de grâce, ce message qui est saisi par la foi. » Et nous voyons que eh bien, c'est Jésus qui dira ces paroles quand il priera le Père dans Matthieu chapitre 11. Il dira « Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants, aux petits, c'est-à-dire un cœur d'un adulte, mais véritablement eh bien, sans être embarrassé de toutes ces religions, de toutes ces philosophies. » Nous voyons que depuis la plus lointaine antiquité, eh bien, il y a un mot qui revient, vanité des vanités. Que de, en effet, prestigieuses civilisations que de grandes philosophies qui ont traversé le monde, des systèmes idéologiques, nobles espérances humaines, se sont succédées et se sont tour à tour écroulées parce que, en effet, eh bien là, ils sont complètement incapables de donner la vraie vie. Dieu, c'est la vie. Mystère d'un choix surprenant. Par la folie de la prédication. Et c'est vrai que la prédication, encore aujourd'hui, lorsque nous annonçons Jésus mort, crucifié, ressuscité, eh bien, nous voyons que les gens haussent la tête ou les épaules, tout simplement, et ça semble devant le monde une pure folie de prêcher, eh bien, un tel message. Et nous voyons que dans plusieurs éléments des évangiles, moi je pense à Marc 16 et Matthieu 28, et Jésus dira simplement, apprenez, apprenez aux nations, apprenez aux peuples à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, les enseignements humains, enseignements philosophiques, enseignements religieux, tout ça n'a rien à voir. Et c'est bien le secret de l'évangile, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu prêchée. La foi vient de l'évangile. Et nous voyons qu'il est rajouté par l'apôtre Paul dans Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par les œuvres, c'est pas par les mérites, c'est pas par finalement nos bonnes actions. Non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une seule et unique base de référence, c'est la parole de Dieu qui est annoncée et elle fait office de vraie révélation dans les cœurs, dans les consciences et dans les esprits. Alors il nous est simplement rappelé aussi par Paul, les Juifs demandent des miracles, les Grecs, eh bien, cherche en effet l'intellectualisme pour comprendre eh bien, l'existence de Dieu et ce qu'il peut faire pour cette humanité qui est perdue. Le religieux sauvé par les rites et l'effort, ça, nous l'avons dit il y a un instant, ce sont les mérites. La philosophie par la science et l'intelligence. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les uns et folie pour les autres, scandale pour les Juifs. Parce qu'ils n'ont pas reçu leur Messie, et puis folie pour les Grecs, puisque c'est deux courants de pensée différents, mais avec véritablement des réactions différentes. La croix scandalise aujourd'hui par l'absence de gloire apparente, et amène les hommes finalement eh bien, à trébucher sur cette pierre d'achoppement qu'est le message de l'Évangile vivant. Objet de mépris pour d'autres, un Dieu qui se fait homme, un Dieu qui meurt, un Dieu qui ressuscite est une absurdité pour la raison humaine. Puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Et nous voyons que la sélection des plus équitables, le choix de l'homme, la foi ou l'incrédulité, beaucoup sont appelés, mais il y en a peu qui répondent. La liberté de choisir est sacrée. Nous avons lu aussi ce petit texte à un moment donné, où il est, et je vais le rappeler, il nous est dit que, or c'est par Jésus que vous êtes, en effet, sauvés, par la volonté de Dieu, qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que personne, par orgueil ou par vanité, eh bien, en effet, là, eh bien, s'imagine qu'il peut véritablement recevoir la grâce de Dieu. Il a été fait pour nous, donc, la sagesse. Qu'est-ce que la véritable sagesse ? La vraie, l'homme compte plus sur lui, sur la conduite, sur sa conduite, que de compter sur Dieu en lui faisant confiance, c'est-à-dire par la foi. Il voit plus loin que l'immédiat, c'est-à-dire l'homme sauvé, eh bien, il a reçu cette sagesse de pouvoir percevoir, autant que c'est possible dans notre humanité, l'invisible. Il a été fait sagesse, il a été fait justice, pécheur, mais pardonné, non nos mérites, non les mérites de l'homme, mais ceux de Jésus, son substitut, sur l'acte judiciaire mentionné, acquitté. La sanctification maintenant, mise à part, la vraie pureté n'est pas l'innocence candide, mais le pardon et la libération des péchés, de nos vices, les vices de l'humanité, des passions, des chaînes morales, et tout cela doit être brisé, et cela a été brisé parce que Jésus a pris notre place, et nous le croyons, nous recevons ce message, parce que l'évangile, ça veut dire tout simplement en grec, bonne nouvelle. Et puis ensuite, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Rédemption, il y a l'idée de rançon, quelqu'un à payer, de rachat. Nous étions esclaves et maintenant nous sommes devenus des hommes libres. Libres par rapport à toutes les choses indifférentes de la vie, mais nous sommes libres dans notre vie intérieure, dans nos pensées, dans notre cœur. Et il a payé en lieu et place pour nous. Et naturellement, eh bien, ceux qui sont les bénéficiaires de cette grâce, ce sont ceux qui croient en Jésus, qui mettent toute leur foi en Jésus. Pas autre chose que Jésus-Christ, dira Paul, et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas une religion qui nous sauve, ce n'est pas une théologie, ce ne sont pas des dogmes, ce n'est pas un baptême, ce n'est pas finalement eh bien là, une adhésion à une religion aussi morale soit-elle. Jésus seul, à l'exclusion de toute autre chose, puisque dans le livre des Actes, au chapitre 4, il nous est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, sinon le nom de Jésus-Christ. Il a été crucifié, et la pire des condamnations pour finalement les condamner, eh bien, est appliquée à un seul innocent qui est venu sur la terre, un seul homme pur que la terre n'a jamais porté, c'est Jésus-Christ. Et il est venu pour sauver les coupables, pour ceux qui croient naturellement, qui se reconnaissent coupables, qui demandent pardon, donc qui se repentent. Et Jésus dira, dans un autre passage, il dira, « Mais je donne ma vie, je suis le bon berger, et il faut que je les ramène maintenant dans la bergerie. » La réponse, eh bien, est celle-ci. Tout repose sur une démonstration d'esprit et de puissance, et non pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sur la théologie, sur des beaux discours, sur des belles phrases, toutes sortes de choses qui peuvent convaincre l'intelligence humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile pratique, autorité divine agissante à travers les guérisons, à travers les miracles, à travers la Pentecôte et le baptême dans le Saint-Esprit, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non sur la dextérité, eh bien là, parlante des hommes, sur les capacités, en effet, d'études de ce que l'on veut, si l'on veut bien passer par là. Alors, nous voyons que tout cela, eh bien, c'est notre foi, notre confiance en Dieu, est fondée sur la puissance, l'action de Dieu. Et nous voyons que c'est une expérience, et nous voyons que, en effet, il y a là vraiment quelque chose qui est, eh bien, d'une grande importance. Nous savons et nous pouvons dire que Dieu est Dieu ou il ne l'est pas. Alors, est-ce que Dieu est une idole, comme souvent on le représente? Est-ce que Dieu est un sujet d'adoration superstitieux? Ou alors, véritablement, il est Dieu, il est vivant, et où, véritablement, eh bien, il peut nous venir en aide. C'est une sagesse que nous prêchons, dira Paul, sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est pour cela que nous avons dit tout à l'heure, citation dans Matthieu, et il nous est dit, et Dieu, et Jésus priera à son Père céleste, il dira, mais je te prie, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux savants, à tous ceux qui, quelque part, eh bien, ne font pas passer leur cœur en priorité, mais leur tête. Alors nous voyons que, eh bien, elle n'est plus au jour, cette mystérieuse sagesse, parce qu'elle est venue jusqu'à nous, et depuis 21 siècles, eh bien, l'Évangile est encore prêché, et l'Évangile fait son effet. Et nous voyons que la sagesse du monde, même religieuse, glorifie l'homme, l'exalte, l'encense, le valorise. C'est pour ça que nous avons, en effet, que ce soit dans le christianisme catholique, que ce soit même dans le protestantisme, qui est beaucoup plus marqué par l'intellectualisme, ou d'autres, je pense par exemple aux juifs. Et nous pouvons penser également, eh bien là, aux orthodoxes. Quelle richesse et quelle... Mais il n'y a rien de comparable avec celui qui est venu sur la terre, qui s'est dépouillé, qui s'est donné complètement et totalement et qui est mort comme un simple homme sur une croix dans des souffrances indicibles. Alors, nous voyons que, en effet, eh bien là, c'est bien ce que nous présente, eh bien, Eis Homo, c'est-à-dire l'homme de la souffrance, l'homme du sacrifice. Alors, l'homme... Eh bien, et nous voyons que par nature, il peut être bien, il peut être beau, il peut être bon, mais tout ça, c'est la force humaine, c'est les efforts pour essayer de gagner Dieu, pour essayer de faire fléchir Dieu. Alors que la sagesse de Dieu, l'Évangile, met tout à plat, l'homme nous dit ces paroles de l'Évangile, et c'est justement une prise de conscience qui est douloureuse quelque part. L'homme est mauvais, il est pécheur, il est perdu, et il n'y a qu'une réconciliation qui est nécessaire avec Dieu pour reprendre, eh bien, tout simplement le chemin du salut. La repentance et le changement de vie. En dehors de cela, ce sont des illusions que nous nous faisons. C'est bâtir la vérité sur l'erreur. C'est une tromperie, nous dit ce même évangile. C'est une source de perdition, d'illusion. Et c'est vraiment, on peut dire, la maison bâtie sur le sable. La conclusion serait la suivante. La sagesse de l'évangile, eh bien, sa supériorité, elle est supérieure à la sagesse des hommes, à l'humanité. C'est vaincre en succombant, c'est-à-dire, comme Jésus, mourir par la croix, renoncer à nous-mêmes, c'est être élevé en s'abaissant, avouer nos fautes, avoir le courage de reconnaître que nous avons fait des erreurs et des péchés. C'est le plus haut degré de vérité et de gloire, car à la base, il y a le renoncement par amour. Et c'est bien ce que nous dit encore l'apôtre Jean, parce qu'il est très prolixe par rapport à cela. Jean dira, mais Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé, c'est par amour, tout simplement. Folie et scandale qui fait fuir, car Jésus exige de mourir à soi-même, de renoncer à ce vieil homme pour revêtir un homme nouveau, une volonté propre qui s'affirme et qui pense avoir toujours raison. Donc, avec la promesse de ressusciter avec lui, nous voyons que Dieu nous sauve pour que nous puissions passer l'éternité dans le ciel, dans le royaume des cieux, avec Jésus-Christ, avec Dieu et avec Jésus-Christ. L'intention de Dieu au travers de notre foi en Jésus, l'humiliation pour ensuite se relever dans le caractère d'un homme nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle création spirituelle et éternelle. Je terminerai simplement pour dire le seul remède efficace, parce que nous sommes tous malades, nous sommes tous des mortels, sur le plan physique, mais sur le plan aussi spirituel, et nous avons besoin d'être guéris dans notre âme et dans notre esprit. Et c'est pourquoi, dans ce message de Pâques, rappeler l'essentiel, finalement, de la signification de cet événement qui a changé la face du monde et qui a fait que des millions et des millions de gens, en entendant l'Évangile, non pas seulement parce qu'ils ont été baptisés, mais parce que, finalement, eh bien, ils ont cru à l'acte rédempteur de Jésus. Et nous pouvons dire, en effet, que, quelque part, eh bien, nous pouvons dire comme Pilate, alors Pilate n'est pas du bon côté, mais toujours est-il qu'il l'a dit quand même à un moment donné, « Voici l'homme sauveur, eis homo ». Et ça, c'est quelque chose de tellement important de pouvoir conclure « Voici l'homme qui a sauvé l'humanité, qui est venu pour pardonner, qui est venu pour réconcilier, qui est venu pour justifier, qui est venu pour apporter, eh bien, cette foi, cette confiance en Dieu, de ce que Dieu a préparé, un plan de salut, un plan de rédemption, et que si nous le croyons, si nous l'acceptons, si nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, qui, eh bien, a fait tout à notre place, alors à ce moment-là, nous aurons tout simplement le bénéfice, le profit d'une vie dans l'éternité de Dieu, avec sa grâce, et nous voulons tout simplement l'en remercier. Merci et à bientôt. Bon courage et bonne Pâques.